Vous écoutez RTL. 11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Bonjour, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver avec l'équipe d'RTL vous régale. On est en place jusqu'à midi et demi en direct. RTL vous régale, ils sont de retour de week-end. Et je dois vous dire, ils sont de retour les bras chargés de victuailles. Elle est généralement au taquet, exceptionnellement au touquet, Nathalie Elal. Précédée bon, par son ombre, c'est-à-dire une terrine au baies de Genièvre et à la fleur de bière. Oui, vous avez bien entendu. Merci pour ce précieux présent.
Mais je vous en prie, bonjour Jean-Michel, bonjour à tous.
Bruitage de présent. Considérant que tous les chemins mènent au Rhum, voire à Naples, Jean-Sébastien Petit-Demange, précédé par son poids en baba, ce qui laisse présager d'une matinée riche et haute en couleurs. Bruno Guillon ne s'en est toujours pas remis. Je ne sais pas, vous l'avez pris, mais au niveau du genou.
Je l'ai séché.
Ça a été terrible. Des babas au rhum, parce que vous êtes de retour de Naples. On va vous parler évidemment de table, de gastronomie et de plaisir en tout genre. Avec mes camarades aujourd'hui, on s'est dit, tiens, pour redémarrer la semaine, ce serait sympa d'associer quelque chose que les Français parfois ont du mal à imaginer. C'est l'agneau.
Et la menthe.
Et la menthe. Alors pourquoi cette association? Première question, j'ai envie de vous la poser, Nathalie.
D'abord parce que l'agneau, ça possède une affinité naturelle pour les arômes à base de plantes. Et la menthe, un petit peu comme les agrumes d'ailleurs, elle a des propriétés purifiantes, voire même désodorisantes, qui vont atténuer les notes les plus fortes de l'agneau. Et les Français font souvent en effet la fine bouche devant l'affection que portent les Britanniques, parce que c'est très british comme association. Donc l'agneau à la menthe, c'est un petit peu particulier pour les Français. Et ils ont bien raison quand il s'agit de sauces à la menthe qui sont brutalement vinaigrées.
Alors quand on parle d'agneau, avant de parler de cuisine, c'est vrai que généralement, on pense au terme de... Alors il y a du cinéma, il y a des expressions populaires. L'agneau qui est,
comme un agneau.
Qui est très représenté dans le langage populaire.
Ah bah oui, oui. Et d'ailleurs, si je vous dis pourquoi le silence des agneaux?
J'allais vous en parler. Le cinéma, alors j'ai une petite idée, mais... Je me souviens du film.
Vous êtes fan?
Un peu, ouais.
Vous êtes fan, vous vous souvenez de Clarice Starling, Jodie Foster. Voilà, et en fait, c'est le titre du film vient de la vie de cet agent du FBI où elle raconte cette histoire à Hannibal Lecter après la mort de son père. Elle a été placée chez son oncle à la ferme. Elle ne supportait plus le cri des agneaux qui étaient abattus pour la boucherie. Donc, elle fait une fugue, elle emmène un agneau avec elle et elle est retrouvée alors qu'elle a tué l'agneau. Et c'est pour cela qu'elle veut absolument sauver la fille prisonnière du serial killer, et tout cela crée ce rapport psychologique extrêmement particulier entre Hannibal Lecter et Clarice Starling dans Le silence des agneaux, qui est quand même un chef-d'œuvre du cinéma.
Voilà, une bonne petite ambiance toute légère pour commencer l'émission ce matin, tout en fraîcheur. Nathalie, la carte d'identité, vous savez que ça c'est la spécialité de Nathalie dans RTL vous régale, carte d'identité de l'agneau et de ce qu'on appelle les ovins généralement.
Oui, ça fait très très longtemps en fait qu'ils sont domestiqués, plus de 10 000 ans en Asie centrale, donc ils ont vraiment fait partie du monde antique. Alors le mouton, c'est un animal qui est peu exigeant en nourriture, et puis il est toujours fournisseur d'engrais, de lait, et puis de laine, et bien sûr de viande quand il devient plus âgé. Mais lorsqu'il s'agit d'immoler une bête à des fins religieuses, on lui préfère l'agneau, qui est devenu d'ailleurs le symbole de la pureté dans la Bible, n'est-ce pas Jean-Sébastien?
Je citerai Jean-Paul II, qui a dit un jour au balcon « Chérie, bonne fête de Pâques !» Il l'a dit.
Vous le tenez bien, Jean-Paul II. Vous faites l'agneau, le pape François aussi.
L'agneau pascal.
L'agneau pascal, l'agneau que les juifs mangeaient à la fête de Pâques. Dans le langage mystique, l'agneau sans tache, c'est l'agneau qui efface les péchés du monde, à savoir le Christ. Et en termes de blason, en termes d'héraldique, il est le symbole de la douceur, de la franchise. Et l'agneau pascal, c'est celui qui est peint et qui représente justement toute cette pureté.
Il y a une raison d'ailleurs à toute cette symbolique. En fait, les Juifs, ils commémorent la fin de l'esclavage des Hébreux en Égypte en mangeant de l'agneau. Il y a un souvenir particulier, c'est la 10e plaie qui a frappé l'Égypte, la mort de tous les premiers-nés, sauf de ceux des Hébreux qui ont marqué le linteau et les montants de leurs portes avec le sang de l'agneau. Et à l'occasion effectivement de la fête de Pâques, les chrétiens mangent donc de l'agneau, symbole d'innocence et de pureté, tel le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, par sa mort et sa résurrection.
C'est pour ça que la fête de Pâques était appelée la fête de l'agneau pascal.
Absolument, et l'agneau a toujours été à toutes les époques un repas de fête, hein. C'est une viande vraiment festive. Et pourtant, pendant très longtemps en France, bizarrement je dirais, on lui a préféré le mouton car on trouvait l'agneau un petit peu fade. Et c'est seulement à partir du 19e siècle et grâce au grand Carême, Antonin Carême, un grand chef de cuisine qui a codifié beaucoup de choses dans la cuisine française, eh bien que sa consommation s'est accélérée.
On est des spécialistes de l'élevage de moutons en France. Jean-Sébastien, il y en a pas mal de races, pas mal d'espèces.
On a une trentaine de races répertoriées en France. La France peut s'affirmer avec fierté avoir l'une des productions ovines les plus diversifiées en termes de région et de type de production. Il y a 6 grands types de races ovines. Il y a les mérinos, les rustiques, les races d'herbage. Il y a 7 millions de brebis mères globalement dans le cheptel d'agneau. Dans le cheptel ovin, on compte ça en brebis mères. On ne compte pas ça en tête. Et en fait, on est une des régions d'Europe les plus riches qui soient en termes d'élevage. Et surtout, ça permet d'entretenir, et c'est hyper important à dire, ça entretient des paysages qui ne seraient pas cultivés et qui ne seraient pas exploités autrement. Et c'est absolument fondamental pour le maintien des paysages en France, cet élevage ovin, parce qu'ils peuvent s'adapter à des terres plutôt pauvres sur lesquelles on ne peut pas avoir d'autres cultures. Et par exemple, je pense à ce qui s'est passé la semaine dernière dans le sud de la France, une région où il y a de l'élevage ovin permet d'entretenir des zones où sinon il y aurait des forêts, des broussailles, et donc du coup ça lâche les feux de forêt et il y a pratique, on ne peut plus les arrêter, alors que s'il y a des pâtures, et ben justement ça limite les risques et ça limite le développement.
La meilleure des tondeuses, l'agneau.
Exactement.
Nathalie est là.
Mais d'ailleurs,
je m'en souviens très bien.
Vous savez que c'était un lundi
31 juillet, il était 11h12.
La semaine dernière, il y a eu une polémique sur les réseaux sociaux et sur comme quoi la zone dans laquelle les feux de forêt sont partis à toute vitesse, le fait que ça se soit étendu et que ce soit parti, c'est pas que le vent, c'était parce que il n'y avait plus d'élevage ovin, parce qu'on a réintroduit le loup. C'est toujours cette éternelle polémique entre les éleveurs ovins et le sauvage et l'élevage.
Entre le loup et l'agneau, évidemment. 32-10 pour vos appels. Le standard d'RTL est ouvert, évidemment. Puis je vous rappelle aussi que si vous voulez tenter de coller Jean-Sébastien ou Nathalie, n'hésitez pas, ça se passe par SMS également. Vous envoyez votre question au 64-900 avec le mot « régal » parce qu'RTL vous régale. Et c'est pareil tous les jours de l'été sur RTL.
11h-12h30. RTL vous régale.
On passe à table chaque jour, 11h, midi et demi en direct sur RTL, RTL vous régale. Et à table ce matin, l'association de ce début de semaine, c'est l'agneau et la menthe. On va vous parler de la sauce menthe d'ailleurs dans quelques instants grâce à Nathalie, mais si on revient sur l'agneau, vite fait, vite dit, il y a quoi comme type d'agneau intéressant en cuisine ?
Il y a 3 types d'agneau de boucherie, mais il y en a un en particulier que je trouve absolument remarquable personnellement, c'est l'agneau de lait ou agnelé qui est tué en fait avant d'être sevré entre 30 et 40 jours. C'est un poids léger, hein. C'est entre 8 et 10 kilos, c'est vraiment un bébé avec une viande très tendre, un petit peu fade mais très très délicate. Et justement, il y en a un autre encore meilleur, c'est l'agneau de présalé. Alors lui, il va brouter sur des herbages qui sont imprégnés de sel, hein, des embruns recouverts lors des grandes marées, avec une chair vraiment fine et délicate. Et le plus réputé provient du Mont Saint-Michel. Et sinon, il y en a aussi à Pauillac et à Sisteron, mais on l'appelle plus du tout présalé, par contre.
Comment on choisit sa viande d'agneau, Jean-Sébastien ?
Je vous confirme qu'à Sisteron, les présalés, c'est assez rare. Ou alors il faut vraiment que la Méditerranée soit remontée très très haut.
Hein, comment on choisit sa viande d'agneau ?
Écoutez, vous connaissez mon amour pour le Made in France. Il faut choisir de l'agneau français, élevé en plein air. C'est mieux. On dit aussi que l'agneau de bergerie est aussi de très bonne qualité parce qu'il est nourri à base de foin et de céréales. Mais il faut avant tout choisir un agneau français. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que 2/3 de la viande d'agneau consommée en France, 2/3 vient de Grande-Bretagne, oui, d'Irlande et surtout de Nouvelle-Zélande. Alors que nous avons les cheptels qui ont les systèmes de contrôle les plus sûrs.
Mais comment on peut expliquer ça du coup ?
Bah parce que c'est moins cher.
C'est juste une question de prix.
L'agneau d'importation est 30 à 50% moins cher que l'agneau français parce que l'agneau d'importation, notamment celui de Nouvelle-Zélande, a des systèmes de contrôle parmi les plus légers au monde. Il n'y a aucun contrôle sanitaire pratiquement qui est fait sur l'agneau. C'est un agneau qui vient de l'autre bout du monde, en bateau, qui a un équivalent carbone, qui est incalculable. Donc, effectivement, c'est un, vous imaginez...
Il pulvérise des plafonds carbone.
Non, mais
hein,
c'est absolument... C'est n'importe quoi. Et en termes de goût, c'est un agneau qui vient... Quand il vient, il est congelé. Alors que vous avez des éleveurs en France qui font un travail, mais totalement remarquable, qui en plus, et je le disais, je le répète, entretiennent les paysages français grâce à leur cheptel. Et il faut absolument... C'est pratiquement une cause nationale de consommer de la viande d'agneau, mais également de la viande de mouton qui vient de France, parce que c'est indispensable. Enfin, il y a un moment, on ne peut pas consommer 66% de l'agneau qui vient de l'étranger.
Ouais, l'agneau de présalé chez nous, justement, qui donne une viande à la saveur très particulière pour une raison toute simple, Nathalie.
Oui, parce qu'il va brouter les herbages qui sont imprégnés de sel des marais. Donc, effectivement, c'est fantastique. Et alors, j'ai une petite astuce, parce qu'on parle évidemment dans cette émission d'association de produits, et aujourd'hui, agneau et menthe. Alors, je vais quand même vous donner le secret de la sauce à la menthe britannique de nos amis. Donc, il faut un bouquet de menthe ciselée, fraîche, bien sûr. Alors, au ciseau ou au blender, ça va plus vite et puis c'est peut-être plus efficace. Une grosse cuillère à soupe de sucre brun ou sucre roux que vous mettez par-dessus. 4 cuillères à soupe d'eau bouillante ou de bouillon de volaille maison bouillant toujours. Vous couvrez tout ça, vous laissez infuser jusqu'à ce que ça refroidisse. Et puis vous rajoutez à la fin 3 cuillères à soupe de vinaigre de malt ou de vinaigre de vin blanc. Et ça vous fait votre sauce menthe pour accompagner votre agneau de présalé.
C'est pas mal. Cette association agneau-menthe, on le trouve souvent dans toutes les cuisines du monde. C'est quelque chose qui est extrêmement courant. On a toujours tendance justement à dire...
À penser que c'est anglais et que anglais.
Oui, à dire que
mais c'est
anglais.
La sauce vinaigrée qui est très anglaise. Voilà. C'est pas la menthe.
La menthe et l'agneau, ça fonctionne de toute manière très bien. En France, en plus, je reviens à mon côté militant, mais ça, vous ne me l'enlèverez pas. On a effectivement la viande d'agneau, mais dans tout le cheptel ovin, on fabrique quand même, grâce au lait, les fromages les plus fantastiques qui soient, parce que le Roquefort, c'est quand même pas n'importe quoi comme fromage. Les différentes tomes qu'on fait, les tomes de brebis qu'on fait dans les Pyrénées-Atlantiques, les tomes de brebis basques, c'est quand même exceptionnel. La tome de brebis corse, c'est quand même une œuvre d'art c'est infernal, ce truc-là, quoi. Donc, l'agneau français, c'est quand même bien.
Je
quoi,
vous sens ému.
Mais non, mais
votre petit œil qui commence à briller, j'aime bien ça. Quand il parle de la tome, il a toujours une petite émotion particulière. C'est ça l'esprit d'RTL, vous régale. 3210, vos appels, le standard d'RTL, SMS 64 900. Avec le mot régale, est-ce que vous ferez partie de ceux aujourd'hui, par exemple, qui parviendront à coller Jean-Sébastien et Nathalie avec une des questions dont vous avez la spécialité, c'est-à-dire des petites recettes, des petites spécialités locales, régionales, qui n'appartiennent qu'à vous, voire familiales. Je rappelle que pour ceux qui seront sélectionnés, il y a des guides du routard et des montres RTL à gagner.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Bonne fin de matinée sur RTL, jusqu'à midi et demi, RTL vous régale, on vous parle d'agneau et dans quelques minutes de son association du jour, la menthe. Mais avant cela, Nathalie, l'agneau en cuisine, alors c'est vrai qu'on aurait pu vous parler du gigot, de l'épaule, les grands classiques
aussi.
Du dimanche, évidemment de la selle, mais on a choisi peut-être d'aller vous chercher des morceaux de l'agneau un peu moins connus.
Oui, par exemple la souris d'agneau, alors ça c'est un petit morceau qui est à la fois gélatineux et moelleux et qui va être situé tout en haut du manche de gigot. Au point de le proposer plutôt en ragoût et en sauté, il n'y a qu'une souris par agneau. Mais quelle tristesse! Sinon, vous avez le collier aussi, ça c'est pas mal, c'est assez économique. C'est pour les sautés, les ragoûts, les soupes, les currys, les tagines et même les couscous, ça c'est très bien. Et puis enfin, l'épigramme, alors ça c'est dans le haut, c'est dans la poitrine de l'agneau. C'est tout un art pour le boucher de lever les épigrammes parce qu'il faut lever les épaules de l'agneau. Enfin bon, toute une histoire. C'est très très bon.
Jean-Sébastien, il y a quelques petites
carré
astuces.
Carré d'agneau aussi, mais ça c'est.
C'est le summum.
C'est fabuleux. Ça.
Ouais. Il y a quelques petites astuces à connaître pour réussir vraiment parfaitement la cuisson.
Alors,
de son agneau.
Je vous parle même pas de la viande congelée, qu'il faut absolument faire décongeler. Ça, c'est indispensable. Mais surtout, il faut
faire décongeler au réfrigérateur.
Oui, enfin bon, déjà, il faut pas la manger, celle-là. C'est mieux, sauf si vous l'avez congelée vous-même et que c'est de l'agneau français. Mais vous la faites décongeler dans votre réfrigérateur. Et une fois qu'elle est décongelée, ou si votre agneau est au réfrigérateur, laissez-le ensuite, avant de commencer à le cuire, quelques minutes à température ambiante, qui prenne la température, qui se mette à température de la pièce. Et puis surtout, c'est une viande... ça, on vous en parle souvent dans les émissions de cuisine, la viande ne se sert pas immédiatement après avoir été cuite. Elle se laisse reposer. Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on ne fait pas forcément chez soi. En revanche, pour l'agneau, c'est absolument indispensable. Avant de servir un agneau, vous le recouvrez dans du papier aluminium, vous laissez reposer 10-15 minutes, soit quand il sort du four, soit quand il sort de la poêle. Il faut absolument qu'il se repose pour devenir plus tendre. Il reste au chaud dans son aluminium et vous allez avoir un agneau là qui va fondre dans la bouche. Et puis alors après, bon, vous avez les compotés d'agneau, un agneau de 7 heures, par exemple.
Heures.
Alors, c'est quelque qui se mange à la petite cuillère.
Ah, je peux faire du chemin là, je peux faire beaucoup de route pour
aller
manger.
C'est bah, ça, pareil dire. Que moi pour un baba.
Oui, on y viendra d'ailleurs, on y viendra tout à l'heure. Pour un gigot, vous comptez quoi? Un quart d'heure de repos dans le four éteint, porte entrouverte?
Absolument,
c'est
oui.
C'est ça le temps de repos
oui,
à peu près?
L'important, c'est qu'il soit emmailloté dans du papier d'aluminium pour conserver sa chaleur.
Alors, elle est emmaillotée dans une très jolie robe tendance vert bouteille.
C'est pas une robe. Hein.
Ah, c'est pas. Ah non, c'est une chemise. D'accord. Pardon.
Non plus.
J'avais pas vu le dessous.
Non plus, c'est un sac.
J'avais pas vu le dessous.
C'est un papier alu décoré de vert.
Nathalie, elle a la recette du jour à retrouver sur RTL.fr. C'est du gigot, justement.
Oui, justement, mais en croûte, vous voyez.
Alors.
Verdâtre. Comme ma robe.
Croûte de pâte feuilletée.
Oui, exactement, pâte feuilletée. Il y a des rognons d'agneau, il y a du madère, il y a du beurre, il y a de la farine. Enfin, bon, c'est un truc vraiment la tradition
léger.
Française. Léger, tout un art, mais facile quand même.
C'est magnifique.
Délicieux.
L'agneau et la menthe au menu d'RTL vous régale ce matin.
Le grand jeu RTL de l'été.
C'est l'heure du grand jeu RTL de l'été avec Aurélien, bonjour.
Oui, bonjour.
Et bienvenue sur RTL. Comment ça va en ce début de semaine, Aurélien?
C'est super, bientôt les vacances, donc on attend.
C'est pour quand?
Septembre, début septembre.
Ah ouais, quand même.
Ouais, ben oui, il faut attendre un peu.
Vous restez au boulot en août, vous êtes coach sportif, c'est ça hein?
Exact, oui.
D'accord, vous appelez d'où?
De Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Ah bah, oh bah alors là.
Les sardines.
Oh, les sardines, ouais. On a beaucoup parlé de votre patelin hein, récemment.
Le
dans cette
merluchon,
le merluchon, etc. On vous dit bonne chance Aurélien, vous savez que le grand jeu RTL de l'été c'est forcément un très joli cadeau dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Vous allez pouvoir gagner ce matin une semaine de vacances en famille avec VVF Village ou un téléviseur 4K de 130 cm et vous allez avoir le choix de jouer avec Laurent Ruquier ou avec Bruno Guillon.
Allez Bruno Guillon.
Et ça évidemment c'est le coach sportif que vous êtes qui parle, il choisit l'athlète.
L'athlète, voilà.
C'est normal. Bonjour, c'est Bruno Guillon. RTL vous offre une semaine de vacances avec votre famille dans un village vacances VVF. Bonne semaine de vacances en famille et bel été sur RTL. Et ben voilà, des vacances deux fois
génial,
plutôt qu'une.
Merci.
Je sais pas ce que vous aviez prévu comme destination pour le mois de septembre.
C'était prévu Biarritz.
C'était réservé déjà?
Réservé, voilà.
Eh bien, écoutez, soit vous faites un doublon et vous partez plus longtemps, c'est-à-dire que vous venez de gagner une semaine de vacances avec 4 personnes, c'est-à-dire les enfants ou pas, vous verrez ce que vous voudrez, en pension complète pour retrouver la vraie vie de village avec VVF Village. Vous allez pouvoir choisir Aurélien parmi plus de 80 villages de vacances pour passer cette semaine entre repos ou activité. Et le coach sportif que vous êtes, à mon avis, devrait pouvoir s'agiter un peu. Hein. Vous faites du sport
même en
vacances. Il y a des clubs enfants, je ne sais pas si vous en avez avec vous.
J'en ai un, oui.
Eh ben voilà, c'est prévu pour les tout-petits jusqu'aux ados. Vous allez découvrir la vie de village sur vvf-village.fr. On vous souhaite un très bon séjour.
Merci à vous, c'est gentil, merci.
Et merci d'écouter RTL. Gardez la forme, à bientôt.
Ciao, merci.
Salut Aurélien.
Salut.
Le prochain rendez-vous dans l'été des grosses têtes, aujourd'hui, avec le grand jeu de l'été vers 16h. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3210 ou en envoyant été par SMS au 74-900. Je vous dis bonne chance.
Le grand jeu RTL de l'été. RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
Voilà, continuez à vous inscrire, n'hésitez pas. Le grand jeu jusqu'au 6 août prochain sur RTL. Agneau et menthe au cœur d'RTL vous régale. On a dressé la table une fois de plus spécialement pour vous. Nathalie, la menthe, dans un instant, avec forcément une recette. Mais avant cela, en termes d'histoire, Jean-Sébastien.
Oui.
La menthe, ça remonte aux ténèbres.
Hadès.
Hadès,
Dieu des ténèbres, fit la cour à la nymphe Aminté. Sa femme Perséphone, bien sûr, était jalouse. Donc, elle a pris la jeune fille, elle l'a transformée, hop, en plant de menthe.
C'est beau.
Bah tranquille. Oui. Paf. Ne pouvant la ramener à la vie, Hadès lui donna son parfum.
Ça, voilà. L'histoire est jolie. Hein.
Oui, enfin, c'est un peu ridicule hein, quand même. C'est,
On parle beaucoup de l'association agneau et menthe dans la cuisine anglaise. Mmh. Et la menthe est anglaise.
Pas seulement, en fait, il y a une variété de menthe qu'on appelle la menthe anglaise, mais on l'appelle aussi la menthe poivrée, et c'est la plus forte des menthes. Alors ça veut dire qu'elle brûle en bouche avant de laisser une sensation de froid, et c'est elle qui donne justement cette essence de peppermint qui est si chère aux Britanniques. Mais c'est quand même les États-Unis qui la produisent, hein, cette essence de menthe. C'est les plus gros producteurs mondiaux, juste devant le Japon. Il faut... Pour votre info, une tonne de feuilles fraîches de cette menthe pour obtenir un kilo d'essence.
Elle vient d'où finalement alors la menthe, Jean-Sébastien ?
Écoutez, ça vient d'Asie et du fin fond de l'Europe médiévale en fait. La menthe, c'est un aromate connu pour sa prolifération rapide. D'ailleurs, il suffit de planter dans un coin de jardin un peu de menthe, vous allez en avoir tout un carré assez
vivace.
Rapidement. Et ça libère un parfum extrêmement fort, très agréable, qui embaumait déjà les temples grecs et les demeures des Hébreux. Ça éloigne les puces. À l'époque, c'était pas mal. Et puis, si on a des chiens, ça peut être bien aussi. Et ça assaisonne les mets depuis très longtemps. La menthe, elle est référencée dans la Bible, où elle était acheté en grande quantité par les Hébreux qui en faisaient leur passe-temps favori au détriment des difficultés sociales et humanitaires de Jésus. Enfin, il y avait cette grande confrontation. Les Romains en mettaient dans leur vin ce qui était interdit pour les dames parce que la menthe était censée être aphrodisiaque. Donc, ça renforçait les ardeurs. Et puis donc, au Moyen-Âge, la menthe était connue pour ses vertus thérapeutiques essentiellement parce qu'elle était antiseptique, elle était anesthésique et bien sûr calmante.
Alors moi j'apprends des choses dans cette émission et j'imagine que vous qui nous écoutez aussi, c'est un peu le but. On apprend par exemple que le mot menthol vient de l'amérindien.
Oui, absolument. C'est des Indiens d'Amérique qui ont donné ce nom de menthol et qui réalisaient des infusions contre la fièvre avec ces menthes qu'on trouvait à l'époque là-bas. Alors qu'ils ne sont pas, bien sûr, sous le vocable de menthe, on a toujours, nous, ce référent qu'on connaît aujourd'hui. Il faut bien évidemment se mettre dans la tête que ça n'était pas forcément la même plante, les mêmes goûts exactement. Exactement, c'est comme le chocolat,
oui,
par exemple.
Oui, parce qu'il y a plein de variétés de menthe, en fait.
Parce qu'on dit la menthe, on dit la menthe,
les menthes, il y en a 25 espèces référencées. Sauvages, pas sauvages, il y en a plein. On parlait tout à l'heure, Jean-Seb parlait tout à l'heure, d'une menthe qui éloignait les puces, elle éloigne aussi les poux, c'est la menthe Pulio, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Il y a plein de menthes différentes, avec des usages différents. Celle qui sert pour le peppermint, on vous en a parlé tout à l'heure. Celle qui va accompagner l'agneau, celle qui va rentrer dans la tisane, pas la tisane, pardon, le thé vert de nos amis marocains qu'on va marier généralement en hiver avec une autre plante qu'on appelle l'armoise. Les Marocains l'appellent la chiba. C'est absolument exquis, ça donne un thé très parfumé, très différent. Il y a plein de sortes de menthes.
Ce qu'il faut savoir, on a dénombré 600 variétés de menthes différentes et il y a 69 espèces. C'est absolument considérable et il y en a beaucoup qui sont évidemment hybridées, mais c'est un monde magique, la menthe.
Je pense que ce qui est important à signaler, c'est que la menthe a surtout des vertus thérapeutiques, elles sont nombreuses.
Des vertus et aussi des inconvénients, parce qu'à forte dose, elle peut vous empêcher de dormir, alors qu'à faible dose, justement, elle va favoriser le sommeil. Vous pouvez mettre une petite pincée de feuilles, d'ailleurs, dans une tasse d'eau bouillante, ça fait une tisane, vous laissez infuser 10 minutes, il faut quand même sucrer un peu, je trouve, ou mettre un peu de miel si vous préférez, parce que c'est quand même un petit peu amer, il faut bien le dire, mais ça peut vous apaiser.
Mais dans les vertus, elle serait antispasmodique, antiseptique,
tonique, expectorante et digestive.
C'est pas mal quand même. Alors,
ce qu'il faut savoir, c'est que on l'utilise beaucoup quand on est enrhumé, la menthe par exemple. Vous savez, le fameux menthol qu'on met sur le torse des enfants en baume, ça marche pas mal. Les sticks aussi pour essayer de respirer. Et si on remonte au grand vieux médecin de l'histoire, Hippocrate par exemple, pensait lui que la menthe était contraire à la génération, donc anaphrodisiaque. Mais les Grecs, eux, interdisaient à leurs soldats de l'employer parce qu'elle incitait tant à l'amour qu'elle diminuait le courage. Donc, aphrodisiaque.
Tout et en fait, contraire sur la brosse.
Aujourd'hui, les chercheurs ont donné raison plus aux Grecs qu'à Hippocrate.
11h-12h30.
RTL vous régale.
RTL vous régale dans un doux parfum de menthe poivrée ce matin. Et pas que poivrée d'ailleurs, parce que la menthe s'utilise en cuisine à toutes les sauces, j'ai envie de dire. Il y a des recettes, on va vous en donner une dans quelques instants. Mais les associations menthe-viande fonctionnent bien, vous allez le voir. La menthe qui s'utilise d'ailleurs fraîche ou séchée, Nathalie.
Oui, vous pouvez voilà, faire sécher et la placer ensuite dans un récipient hermétique à l'abri du soleil et de l'humidité. Elle va conserver sa saveur pratiquement un an d'affilée. Sauf que, il y a un petit bémol, c'est que la menthe séchée, c'est pas très joli. Hein, faut bien le dire. Souvent, ça noircit un peu. C'est moins glamour que de la menthe fraîche. Alors, quand elle est fraîche, toujours, moi, j'aime beaucoup dans certaines spécialités asiatiques, par exemple avec des nems. Ça, c'est vraiment indissociable de la salade verte, des feuilles de batavia fraîches et de la belle menthe pour accompagner des nems. C'est merveilleux. Ça va rentrer aussi dans des taboulés libanais ou d'origine irakienne, turque, syrienne.
Je peux faire une parenthèse ?
Je vous en prie.
Ce petit ravioli sarde.
Ah, ça, j'ai très... Mais attendez, ça, c'est encore des promesses de fourré. Gascon, là.
Je vous promets, là, je vous mets le truc officiellement sur la table. Là, ça y est, il y a invitation. Ravioli farci avec purée de pommes de terre à l'huile d'olive, dans laquelle vous ajoutez du pecorino et de la menthe fraîche. Et ça, c'est exceptionnel.
Mais on ne demande qu'à tester, Jean-Michel, maintenant.
Vous allez voir.
Voilà. Alors, sinon... Bah, le kebab aussi, ça marche avec la menthe. Mmh. L'agneau de lait, on l'a vu. La grillade de porc. Un lapin au four avec une petite sauce chèvre et menthe. Ça, c'est merveilleux. Des écrevisses à la nage. Une dorade grillée,
oh
tout
non,
ça.
Je t'ai plus.
Non, bah, si, il faut un souffle de menthe. Ça suffit. Comble du raffinement, évidemment, des feuilles de menthe fraîches ajoutées à une sangria, ça va renforcer l'arôme de la cannelle et du vin. D'ailleurs, à propos de vin, j'ai une recette assez sublime pour vous aujourd'hui. C'est une soupe de fraises au vin de Cahors, très facile à faire, que vous retrouverez sur la page de l'émission sur rtl.fr avec du vin de Cahors, parce que c'est un petit peu tannique. On fera un petit sirop de sucre, on mettra du zeste d'orange, on mettra éventuellement du gingembre, on mettra beaucoup de menthe et des belles fraises.
De la menthe qu'on retrouve dans une béarnaise, Jean-Sébastien, qu'on ne connaît pas forcément, c'est la paloise.
Oui, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la sauce béarnaise n'a rien à voir avec le Béarn, en fait. Elle a été inventée à Paris, comme souvent, à chaque fois, par erreur. Hein. C'était un chef, je crois, qui s'appelait Collinet, qui n'avait plus d'estragon.
Qui n'avait plus d'estragon et qui a mis de la menthe.
Non, qui n'avait plus de menthe, pardon.
Qui a fait l'inverse.
Et qui a mis de l'estragon. Et en fait, la sauce paloise, elle se fait à l'origine.
C'est la menthe.
La sauce paloise, c'est la menthe. Et pourquoi la sauce paloise est à la menthe ? Eh bien, parce que Pau était un terrain de jeu de golf pour les Anglais qui s'étaient installés au 19e dans le sud de la France.
Et c'est mieux de golfer avec de la menthe ?
Alors ça, je ne sais pas, mais les Anglais ont toujours eu un palais particulier qui aime le côté mentholé.
Que dire, parlant de la menthe, de la fraîcheur qu'elle apporte au rouleau de printemps vietnamien, par exemple. Moi, j'adore ça aussi. De la menthe qu'on retrouve dans les cuisines nord-africaines, moyen-orientales, thaïlandaises, oui, indiennes, chinoises, indo-chinoises. Et en France, plus près de chez nous, à Milly-la-Forêt.
Alors... Ça, Milly-la-Forêt, c'est une petit village dans le parc régional du Gâtinais en Île-de-France. C'est un site protégé. C'est ce village dans lequel Jean Cocteau a vécu plusieurs années. Il a peint notamment des plantes médicinales sur les parois de la chapelle Saint-Blaise.
C'est la menthe religieuse, ça.
Voilà, c'est cela, oui. De la commune de Milly-la-Forêt. C'est l'autre star après Jean Cocteau, c'est la menthe poivrée de Milly-la-Forêt, qui a une histoire qui commence au tout début du XXe siècle grâce à Armand Darbonne, un maréchal qui avait rapporté d'un voyage en Angleterre une variété de menthe particulière, cette menthe noire qu'on appelle la Mitcham, qui deviendra notamment la base des bêtises de Cambrai. Oui. Et puis, au fil du temps, cette menthe est devenue la menthe poivrée de Milly-la-Forêt, qui est un hybride de menthe noire et de menthe verte. Alors, il faut savoir qu'il y a 50 ans, on trouvait aux alentours de Milly une cinquantaine de producteurs de menthe poivrée. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul producteur, c'est dire s'il faut le mettre sous cloche, le protéger, acheter de la menthe poivrée de Milly-la-Forêt, parce que on est pile poil dans l'expression d'un produit, mais surtout d'un terroir.
Si je vous dis rhum, sirop de sucre de canne, de l'eau pétillante,
oui,
et de la menthe fraîche, vous dites
mixologie ?
Non, pas du tout, classique.
Bah oui, c'est bien, oui, mixologie, c'est-à-dire les cocktails.
Bah oui, mais lequel ? Bah, du rhum, du sirop de sucre de canne et de la menthe.
Oh, dites donc, je ne vois pas. Hein.
Comment ? Il n'y a que le stagiaire.
Bah oui, mais c'est normal, il est stagiaire.
Je rêve, Thomas, c'est
le morito.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Allez, juste avant l'info de midi sur RTL, c'est un instant qu'on aime beaucoup dans RTL vous régale. Vous savez que ce sont des petites choses qui viennent ponctuer cette émission régulièrement au 3210 ou par SMS au 64 900. Avec le mot régale, vous pouvez tenter de coller mes camarades Nathalie et Jean-Sébastien. C'est un peu l'instant chafouin de Jean-Seb qui a du mal hein, sur les spécialités locales, régionales, familiales.
Non, là, je fais de la spécialité à 3 milliards.
Ah, quand il n'a pas goûté, ça l'agace. Ça l'agace. Voici venir Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour Dominique.
Et bonjour Nathalie, Jean-Sébastien et Jean-Michel.
Vous appelez d'où Dominique ? Dites-nous tout. De La Roche.
Alors je l'appelle de La Roche-Chalais.
C'est la Dordogne.
Le dernier village du Périgord blanc. Situé à la limite de la Charente et de la Charente-Maritime.
D'accord. On sait manger là-bas. On sait bien manger.
Et vous allez voir, qu'on ne fait pas que manger. On vous en parler dans un instant, je vous donne un petit indice. Quelle est votre question, Dominique ?
Alors, je voulais demander à votre équipe s'ils savaient ce que c'était qu'un brûlot charentais.
Un brûlot charentais. Nathalie, j'ai l'impression que... Alors, quand elle lève le doigt comme ça, généralement, c'est qu'elle a de l'info.
Bon, c'est une sorte de cocktail qu'on va faire flamber parce que c'est un brûlot et je pense qu'il doit y avoir forcément du cognac, mais j'en sais pas plus. Hein.
Vous êtes sur la bonne voie.
Oui.
Je précise quand même à tous les auditeurs d'RTL qui sont avec nous ce matin qu'on joue le jeu. Hein. C'est-à-dire que quand l'affiche arrive, la question est posée au standard. On ne vérifie pas sur Internet.
On n'a rien vu, rien entendu.
Globalement, si on est en Normandie, c'est un café Calva, quoi.
C'est ça aussi.
Ouais.
C'est un Irish Coffee version Dordogne, c'est ça ?
Charentaise. Un petit peu, oui. On fait ça dans des tasses spécialement confectionnées chez nous.
C'est pas des mazagrans, non ?
Non, c'est des tasses entières cuites.
D'accord.
Avec une soucoupe creuse.
Mais après, il n'y a pas que la tasse qui est cuite après.
Et un galette. Oui, c'est vrai que quand on insiste un peu trop, oui, c'est vrai. Alors, dans cette tasse, on met le café froid.
Oui.
Jusqu'à 2 cm du bord.
Oui.
Et avec une cuillère à café, on verse 1 centilitre de brûlot.
Pas plus ?
Pas plus.
Petit joueur.
Pas plus.
C'est quoi ? Non, mais il faut préciser. Attendez, Dominique, c'est quoi le brûlot ?
Alors, le brûlot, c'est un cognac à 58 degrés.
Et voilà.
Voilà.
Tranquille.
Alors, c'est un cognac
en plus. Comme ça, il se balade.
Mais brûlot, bah ouais. Non, mais d'où l'explication de on prend une cuillère, quoi.
Le mettre dans un endroit où il peut s'enflammer.
Voilà, on ne le met pas dans les stations-service.
On peut le conserver à température ambiante, à 18-20 degrés, mais surtout pas.
Mais vaut mieux pas.
Voilà. Et on n'emploie pas son portable au-dessus de la préparation non plus.
Tout à fait.
Très dangereux.
Tout à fait. Donc, dans la soucoupe creuse, on met 3 morceaux de sucre.
Ouais.
On arrose ces morceaux de sucre avec 3 centilitres de brûlot.
Ouais.
Et on met le feu à la surface de la tasse.
Et on récupère les cendres après.
Le feu, quand il s'éteint tout seul, il faut attendre qu'il s'éteigne tout seul. Dans la tasse, ça fait un petit sirop.
Voilà. Et quand vous n'avez plus de cheveux,
donc,
c'est prêt.
Le galet qui est donné avec la tasse, on se sert de la tasse, on met la tasse sur le galet. On récupère le sirop dans la soucoupe et on le verse dans le café.
Voilà donc la recette du brûlot charentais proposée par Dominique. Ça va vous permettre de partir avec un guide du routard et une montre RTL.
Bravo.
Merci
Dominique.
Pour cette spécialité, Dominique. On vous embrasse, on vous souhaite un très bel été.
Eh bien, je vous remercie. Puis j'essaierai de vous coller une autre fois parce que j'ai une recette de sauce aussi de Charente.
Revenez quand vous voulez. Si c'est un truc flambé, on est preneur. Vous commencez à nous connaître. On vous embrasse. Vous écoutez RTL. Il est midi.
11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Oui, Jean-Sébastien, entre deux babas ce matin, vous allez nous emmener pour une des escales dont vous avez le secret, destination, peut-être un des plus beaux coins d'Italie.
Oui, je suis allé plusieurs fois à Naples, souvent pour des week-ends prolongés, puis parfois pour quelques heures, pour aller vous chercher des babas. Le week-end prolongé est quand même l'idéal pour découvrir cette ville. C'est sans comparaison à mes yeux la plus belle ville de l'univers, disait Stendhal, qui était un grand amoureux de l'Italie. Qui n'a pas visité Naples ne connaît pas l'Italie, ça c'est clair, parce que cette ville dégage une identité folle. Elle est turbulente, elle est éruptive à l'image du Vésuve, ce volcan majestueux dominant une immense baie en forme de croissant. Et il n'y a aucune autre ville en Europe qui ne possède une telle histoire, aucune qui n'a réussi à traverser les vicissitudes des siècles en maintenant sa personnalité, en sauvant son âme.
Et on peut dire que l'histoire vient de très, très, très loin.
Elle vient de trois sirènes, l'histoire de Naples. Parthénope, Ligée et Leucosia. Partie de chez elle pour s'installer sur une île au large de Sorrento, elle devait envoûter les marins par leur chant fatal. Ces marins s'approchaient trop des côtes, les navires se fracassaient et ces douces sirènes partaient les dévorer. Lorsqu'Ulysse les trompa, elles se laissèrent mourir, formant le golfe de Naples, dit-on. Alors, la ville a depuis conservé le souvenir de ses sirènes et de ses origines marines. Et Naples a été d'ailleurs la République parthénopéenne en 1799. À cette époque, Naples est le phare culturel de l'Europe. Alors, c'est vrai qu'elle a quand même un peu changé, cette ville, mais elle reste bouillonnante, active, humaine. Naples ne supporte pas l'hypocrisie et se fait côtoyer à chaque instant le sacré, le public, les aristocrates et les bourgeois, les gens du peuple et les plus hautes personnalités. Le verbe haut et les gesticulations théâtrales des Napolitains, leur goût pour la superstition et l'exagération baroque, caractère frondeur et éruptif de la ville. Tout à Naples, et vous serez d'accord avec moi, Jean-Michel, respire l'italianité de ce pays. Et c'est dans le quartier autour de Spacanapoli que la culture napolitaine se donne à voir dans toute sa richesse. D'ailleurs, Spacanapoli, ça signifie « fan Naples ». C'est une succession de petites ruelles qui est longue de 2 km, large d'à peine 6, qui divise la ville en deux. Alors moi, je me souviens là-bas avoir mangé une parmigiana de rêve total. C'était dans une petite barquette en carton. J'ai mangé ça avec les doigts tellement c'était fabuleux parce que le directeur de l'hôtel qui me faisait visiter ce quartier de la ville m'avait dit « Tu vas voir, c'est la meilleure parmigiana du monde. »
C'est sans doute pas faux.
Et,
hein.
il avait raison.
Je peux chialer pour ce genre de choses. Je vous le dis franchement, moi.
Mais il y a mieux comme souvenir.
Le petit déjeuner, je parie.
Voilà, ce même directeur d'hôtel, le samedi matin, est venu me chercher, quand j'étais dans sa maison, il est venu me chercher dans la salle de petit déjeuner avec toute la discrétion d'un Napolitain. « Ma, laisse tomber, ça n'a aucun intérêt, le petit déjeuner, viens avec moi, je t'emmène prendre un petit déjeuner napolitain. » Bon, c'était stupeur hein, dans les clients, bien sûr, qui étaient là. Oui, bon, enfin bon, quand même pas mal. Peut-être. Je pars, nous traversons la rue. 3 minutes plus loin, à côté d'un garage improbable où je m'attendais voir sortir la Cadillac du Cornio avec le Yunkunkun, il me fait rentrer dans un café et là, il commande des cafés napolitains. Alors, je vous passe la machine à café à levier qui brillait à force d'être frottée depuis des générations et des générations et sur laquelle on pouvait faire couler une douzaine de cafés expresso en même temps. Un café qui reste encore sur mes papilles, dans mes narines, tellement c'était un esprit de café. C'est une merveille absolue. J'avais un peu l'impression d'être à la fois chez Jacques Vabre et chez Maurice Nespresso. mais le bonheur était dans l'assiette qui était juste à côté de cette petite tasse de café. Parce qu'il y avait là le Baba, qui n'est pas seulement un animateur de télévision de Troisième Zone. Hein, c'est surtout là-bas... Une merveille absolue sortant du four parce qu'il les servit tiède, inondé de ce sirop incroyable fait de rhum, de limoncello et de sucre. Alors, Nathalie nous a raconté le Baba, Stanislas, tout cela, mais quand il est arrivé à Naples, c'est grâce à Marie-Caroline, la sœur aînée de Marie-Antoinette, qui a été mariée au roi de Naples, Ferdinand IV. Et Marie-Caroline était impressionnée par les fastes de la cour de Versailles et elle a fait venir à Naples quelques cuisiniers pour contenter son palais. Ils sont venus avec le Baba. Le Baba est resté. Personnellement, je vous avouerai que je serais bien resté dans ce bar pendant quelques années. Mais elle est là sans doute la beauté du voyage. Parce que savoir que quelque part, il est un goût, il est une saveur, il est un plat qui fera à nouveau mon bonheur, et surtout, j'espère, le vôtre. Si vous partez pour Naples, c'est ça, pour moi, l'idée du voyage.
Vous parlez bien de Naples, ça me fait plaisir. C'est une très belle escale de rêve signée Jean-Sébastien Petit-Demange. Dans un instant, le carnet d'adresses d'RTL vous régale. Est-ce que vous connaissez la prune de Brignoles ?
Oui, magnifique.
Gagné de connu, hein. On en aura en ligne de la prune de Brignoles d'ici quelques instants, vous allez voir. Avec quelqu'un qui est sans doute parmi ses plus ardents défenseurs. On en parle dans quelques minutes sur RTL, dans RTL vous régale.
RTL,
première radio de France. 11h-12h30,
RTL vous régale.
RTL vous régale, le carnet d'adresses d'RTL chaque jour. C'est évidemment une spécialité, c'est un produit, c'est une région et ce sont surtout des hommes et des femmes qui sont des artisans et qui nous proposent des choses absolument exceptionnelles. On va partir dans le Var ce matin. Je vous invite à Brignoles où nous attend Marc Richard. Bonjour Marc.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL. On est ravis d'avoir avec nous le président de l'association La Prune de Brignoles. Vous êtes président de cette association depuis 10 ans. Votre but est simple, Marc Richard, c'est de relancer la culture des pruniers de Brignoles, puisque finalement aucun agriculteur n'en produit aujourd'hui.
Eh oui.
Mais pourquoi donc ?
Alors pourquoi ? C'était déjà l'histoire de La Prune de Brignoles est très ancienne. C'est que pour en faire les pistoles, qui étaient la prune, disons la prune séchée, épluchée, qui était très, très goûtée et très prisée du temps de François Ier. Il fallait de la main-d'œuvre. Et c'était les dames qui faisaient ça. Et au début du siècle, 1900, disons, le 20e siècle, il y avait moins eu de main-d'œuvre. Et du coup, la production s'est arrêtée.
Alors, la prune de Brignoles, elle a été connue sous François Ier, c'était l'époque des croisades. Il faut expliquer l'histoire. On a ramené la prune de Damas, d'où l'expression. Oui.
Alors, François Ier, l'époque des croisades, vous faites un...
Non. Elle a été connue sous François Ier et l'expression date de l'époque des croisades. Ça va se payer, ça.
Voilà. C'est les croisés qui l'ont ramené de Damas, non ?
De Damas. Il avait compris.
Voilà. Ils en ont ramené des choses, les croisés, hein, je vous dis pas.
Je voulais juste qu'on explique pourquoi on parlait des croisades, parce que ça a donné naissance à cette expression. Vous avez voyagé pour des prunes.
Voilà,
tout simplement. Mais...
les comtes de Provence, qui en fait était le frère de Louis IX, qui est Saint-Louis, qui a fait les croisades, a habité Brignoles pendant longtemps. Et pendant, le père Charles I et Charles II ont habité Brignoles. Et les Brignolais ont accompagné donc Charles I et Louis IX à Damas pour faire le siège de Damas. Et en revenant, ils ont ramené ce qui était mangeable dans le voyage. Des prunes et des plants. Et c'est là où il y a eu l'expression, au bout de 6 mois ou 1 an, quand ils sont revenus, vous avez fait le voyage pour des prunes.
Voilà. Et une prune de Brignoles qui a été malmenée, parce que pendant la Révolution, les villageois, paraît-il, ont coupé tous les pruniers pour protester contre la monarchie. Elle a disparu ou elle a failli disparaître à l'époque, c'est ça ?
Elle a disparu dans le sens où on a coupé 18 000 pruniers, ce qui était une grande production. Et l'avantage qu'on a du prunier de Brignoles, c'est que ça drageonne. Et ce sont les drageons, donc les racines qui repoussent et qui redonnent des pieds francs. Et c'est comme ça qu'on en a retrouvé, on en retrouve aujourd'hui. Mais comme elle n'est pas trop bonne en bouche, les personnes ne l'exploitent pas ou ne la vendent pas. Et on en fait juste 1 ou 2 kilos de confiture dans un coin pour pouvoir, disons, et... Sur Brignoles, il y a beaucoup de Brignolais qui ont dans leur jardin un perdigon, mais qu'on n'exploite pas.
Marc Richard, bonjour. Je pense qu'on fait aussi une très très bonne tarte par chez vous qui s'appelle la Brignonia, non ? Une sorte de pâte feuilletée avec un biscuit aux amandes, une mousse de prune, c'est ça, non ?
Vous êtes bien enseigné, oui.
N'est-ce pas ?
Ça, elle va démarrer en l'honneur de Saint-Louis.
Oui.
Donc de Saint-Louis, non pas roi de France, mais Saint-Louis de Brignoles. Qu'on va fêter les 400 ans de patronage de Saint-Patron de Brignoles. La pâtisserie Lapiteau a fait un jour une prune en l'honneur de Saint-Louis, la prune de Brignoles.
Voilà.
Et on appelait ça la Brignonia, qui était le nom ancien de Brignoles.
La prune de Brignoles, voilà, dont la saison va démarrer. Je pense que la récolte commence mi-août. Vous êtes 5 personnes pour en ramasser 500 kilos. On vous souhaite beaucoup de courage.
Oui, non, un peu plus de 5 personnes. J'ai eu d'autres personnes qui se sont jointes à nous.
On terminera, Marc, en disant que le 17 septembre, c'est la fête de la prune à Brignoles. Il faut aller vous rendre visite.
Ah oui, oui, oui.
Voilà, vous ferez déguster les produits. Il y a des chefs cuisiniers qui seront présents avec plein de spécialités. Oui. Fromage de chèvre à la prune et même des hamburgers à la prune.
À la prune, oui.
Merci,
oui, oui.
Marc Richard. Je rappelle que vous êtes le président de l'association La Prune de Brignoles depuis 10 ans et que votre but est de relancer la culture de ces pruniers qui ont failli disparaître. Merci, on vous embrasse. On vous souhaite de belles vacances et une bonne récolte surtout.
Merci beaucoup.
Au revoir, Marc. De cette...
11h, 12h30.
RTL vous régale.
Et au programme d'RTL vous régale tous les jours de l'été sur RTL, aux alentours de midi 20. C'est un moment qu'on attend aussi avec beaucoup d'impatience. C'est l'histoire d'un plat, l'histoire d'un dessert, parce que vous êtes une incorrigible gourmande, Nathalie Hélal, et vous allez en remettre une couche ce matin.
Oui, pas qu'une couche d'ailleurs, hein. 3 couches de pâte feuilletée, 2 couches de crème pâtissière, un dessus glacé avec du sucre glace ou du fondant généralement blanc. Bah, tout ça, c'est bien sûr le millefeuille. Alors, un monument du savoir-faire national qui est connu dans le monde entier et qui pourtant n'est pas né chez nous. Parce qu'en effet, on l'ignore peut-être, mais le berceau du millefeuille, c'est la Hongrie. La Szegedinőr Torte, littéralement le gâteau de la ville de Szeged. C'est un gâteau, à l'époque, qui est composé d'abesses de feuilletage superposées et enrobées de caramel. Alors, ironie du sort, il y a 3 grands chefs français qui sont vraiment passés à la postérité, qui vont œuvrer chacun à leur manière et à 3 époques différentes pour le perfectionner et en faire le délice que nous connaissons. Premier cuisinier à en donner la recette dans son livre Le pâtissier français, paru au XVIIe siècle, c'est François-Pierre de la Varenne. C'est un chef français renommé et il le baptise alors ce millefeuille feuillantine. Un siècle plus tard, un autre grand chef, Vincent Lachapelle, il impose les gâteaux de millefeuille parmi les entremets aux 2 extrémités de la table du festin, juste avant le service des poissons. Parce qu'il faut bien vous dire qu'à l'époque, sur les tables princières, on présentait des desserts au beau milieu d'un menu, avant d'enchaîner sur de nouveaux plats salés. Ça permettait de relancer en quelque sorte l'appétit des convives. Et Lachapelle a relooké le millefeuille. 5 abesses de feuilletage, le centre de l'une des feuilles est découpé en forme de fleur de lys ou de cœur. Une fois cuites, les feuilles sont superposées, séparées l'une de l'autre par une couche de confiture et non pas de la crème à l'époque, en terminant par celle qui est découpée. L'ensemble est glacé de blanc, séché au four et décoré de dessins réalisés avec un mélange de gelée de groseille, de pistache pilée et de sucre. Et puis enfin, c'est le grand Antonin Carême lui-même qui prend les choses en main et qui codifie la recette telle qu'elle est encore réalisée aujourd'hui. Mais c'est un pâtissier parisien établi dans le bas de la rue du Bac qui, en 1867, va démocratiser ce gâteau. Son millefeuille à 6 tours, c'est-à-dire 6 pliages consécutifs de pâte feuilletée, un total de 729 feuillets, se vend par centaines chaque jour. Les Anglais le rebaptisent, ce millefeuille, le Napoléon ou le Puff Pastry. Le gâteau devient culte. Il est très souvent réinterprété par les plus grands pâtissiers en forme, en taille, en variété de crème, c'est-à-dire de la chantilly, de la praliné, de la pistachée, même un glaçage et un décor différent qui change partout. Mais la formule ne change pas parce que c'est toujours des couches de fines pâtes feuilletées, dorées, légèrement caramélisées, séparées par une crème pâtissière vanillée et une surface recouverte de fondant blanc. Alors parfois, dans sa version la plus raffinée, le fondant est recouvert d'un marquage en chocolat noir fondu qui est appliqué au cornet ou à la seringue à pâtisserie, de fins très réguliers espacés, tirés dans un sens puis dans l'autre, avec le dos d'une lame de couteau, parfois dessinés en spirale quand le millefeuille est rond. En fait, vous l'aurez compris, le gâteau est la recette idéale qui n'ont besoin aujourd'hui d'aucune feuille de route pour faire rayonner le savoir-faire pâtissier de la France dans le monde entier.
C'était l'histoire du millefeuille signé Nathalie Hélal.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Merci, merci à tous d'avoir passé votre fin de matinée avec nous sur RTL. Pour RTL vous régale, nous serons de retour demain dès 11h. Demain, saumon frais et...
Et fumé aussi, et crème fraîche.
Et évidemment, saumon et crème, c'est un indispensable. Nous retrouverons Nathalie Hélal et Jean-Sébastien Petit demain, notamment pour une nouvelle escale. Je vous souhaite une très très belle journée. Bonne fin de mois de juillet avec les programmes d'RTL. Dans un instant, Sophie Orange, RTL Midi. Vous écoutez RTL, il est midi et demi.